Matière à penser, Serge Tisseron.
Matière à penser, des machines et des hommes. Alors aujourd'hui, pour mieux comprendre comment les objets que l'homme fabrique modifient nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, je reçois Maya Fansten. Maya Fansten, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Descartes et membre du Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société. Bonsoir Maya Fansten.
Bonsoir Serge Tisseron.
Alors vous allez donc nous aider ce soir à comprendre un phénomène étrange, hein, déroutant. Alors peut-être d'ailleurs que certains parents nous écoutant vont reconnaître des situations familiales, il ne faut pas leur souhaiter, mais ça peut arriver. Alors ce sont ces adolescents, ces jeunes adultes de moins de 30 ans qui n'ont pas de revendications particulières, hein, mais qui semblent refuser toute forme d'engagement affectif, professionnel, associatif. Ils restent à la maison. On les appelle des hikikomori au Japon, mais le mot est en train de gagner une notoriété internationale. Alors de qui s'agit-il ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Ce terme un petit peu étrange de hikikomori, c'est un terme qui est apparu au Japon tout d'abord dans les années 80 et surtout dans les années 90. Et c'est un phénomène qui là-bas au Japon est très bien identifié et très étudié. Hikikomori, ça veut dire se retirer à l'intérieur. Et ça désigne donc, comme vous l'avez dit, des jeunes gens. Selon les définitions un petit peu officielles au Japon, il y a le ministère de la Santé qui a produit une définition officielle et qui dit que les hikikomori, ce sont des enfants, des adolescents ou des adultes de moins de 30 ans et qui se retirent de toute vie sociale, de toute activité sociale, qui restent à la maison. Et ce, pendant au moins 6 mois. Voilà, pour être qualifié de hikikomori, il faut vivre en retrait depuis plus de 6 mois et avoir moins de 30 ans.
D'accord, ça ne veut pas dire que si on a un ado qui ne sort plus depuis moins de 6 mois, il ne faut pas s'inquiéter.
C'est ça, absolument. Mais
la définition officielle, c'est après 6 mois.
La définition officielle, c'est ça. Et le mot japonais, il désigne à la fois les individus, les hikikomori, ou le phénomène de retrait lui-même. On parle de hikikomori, alors nous, on dirait peut-être hikikomorisme. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le traduire.
Il y a une étymologie japonaise de ce mot hikikomori. Hikikomori.
Oui, alors c'est deux termes qui signifient se retirer à l'intérieur. Donc
d'accord,
c'est vraiment cette idée-là. Hikikomori, c'est un phénomène qui est d'abord identifié au Japon, donc, comme on l'a dit, le terme a connu un grand succès dans les années 90. Parce que, comme vous le savez, Serge Tisseron, dans ces années-là, une préoccupation s'est développée sur la question de la jeunesse. Et surtout, on en parlera peut-être tout à l'heure, le gouvernement, la puissance publique, les journalistes, mais aussi un psychiatre japonais qui s'appelle Saito, a produit la première étude sur la question en estimant qu'il y avait 1 million de hikikomori. Alors l'effet du million est spectaculaire, donc ça a contribué à rendre le phénomène très visible et à créer presque une panique.
Voilà ce qu'on appelle un effet d'annonce, évidemment.
Exactement.
Toujours dans l'outrance. Alors je crois, Maya Fansten, que les chiffres ont été revus quand même à la baisse assez sérieusement.
Oui, alors les personnes qui travaillent sur ce phénomène remettre un petit peu en cause maintenant cette histoire du million, même si on retrouve toujours ce chiffre dès qu'on regarde un petit peu sur Internet. Évidemment, c'est très compliqué de savoir combien ils sont par définition. Des jeunes gens qui ont choisi de se retirer du monde, ils ne veulent pas qu'on les trouve, et encore moins qu'on les repère, et encore moins qu'on les compte. Donc c'est justement des jeunes gens qui échappent un peu au contrôle, au radar. Et pour savoir combien ils sont, on est obligé de fournir des estimations sur des bases compliquées, méthodologiquement, etc.
Oui, il y a une information aussi qu'il faut porter à la connaissance de nos auditeurs. Il n'y a pas au Japon de pédopsychiatrie, de psychiatrie infantile, comme il en existe en France.
Oui, c'est très différent.
Donc beaucoup de parents qui ont un enfant qui reste à la maison ne consultent pas de pédopsychiatre puisqu'il n'y en a pas. Et donc simplement, on peut constater un absentéisme scolaire, mais il n'y a pas. Il est beaucoup plus difficile d'identifier ces jeunes.
Oui, c'est vrai, c'est pas du tout la même situation qu'en France, même si en France aussi, alors quand si le jeune est adolescent en âge de scolarité obligatoire en France, il va être opéré assez rapidement par tout ce système de l'école et des services psy autour de l'école. Il y a peu de chances qu'il échappe. En revanche, s'il a plus de 16 ans et encore plus de 18 ans, il est parfaitement invisible aussi. Donc on a aussi ce phénomène d'invisibilité en France d'une certaine manière. Bon, toujours est-il que les études les plus récentes, disons... je pense à un ouvrage qui est paru récemment d'un collègue, Nicolas Tajan, qui a écrit sur Génération Hikikomori, qui a répertorié les dernières études. On est plutôt autour de 500 000, en gros.
D'accord, on est passé de 1 million à 500 000.
Voilà, on a revu un peu à la baisse.
Et alors, je crois aussi qu'on parle de hikikomori primaire et hikikomori secondaire, hein, Maya Fanstein. Vous pouvez un peu nous établir la distinction entre les deux?
Oui, alors ça c'est une discussion qui a lieu à l'intérieur plutôt de la psychiatrie. Des définitions qui ont été proposées par des psychiatres d'inspiration plus proche de la psychanalyse, disons, au Japon, ce qui n'est pas du tout la psychiatrie dominante au Japon. Donc c'est une psychiatrie plutôt minoritaire. Et ces psychiatres-là ont proposé effectivement de différencier hikikomori primaire et hikikomori secondaire. Hikikomori secondaire, ça veut dire quelqu'un qui est en retrait secondairement à une pathologie identifiée. Donc ce retrait, il s'explique au fond par une autre pathologie.
Voilà, ça peut être par exemple une phobie, une schizophrénie, des troubles autistiques.
Exactement, voilà. Alors, hikikomori secondaire à distinguer donc de hikikomori primaire, qui serait ce noyau particulier, énigmatique, de jeunes gens qui sont en retrait sans qu'aucune pathologie n'explique le retrait. Aucune autre pathologie ne peut expliquer cette conduite, d'une certaine manière.
Alors, je crois aussi, Maya Fanstein, avec deux positions possibles. Alors, là, ceux qui disent, en cherchant bien, on va bien finir par trouver une cause psychiatrique chez les hikikomori primaires. Puis ceux qui disent, ne nous précipitons pas du côté de la psychiatrie, essayons plutôt de comprendre si peut-être ça serait pas une position sociale, une position par rapport à un certain nombre de contraintes sociales. Et finalement, peut-être une attitude assez bien adaptée par rapport à un ensemble de conditions supportable.
Tout à fait. Alors ça, c'est tout un débat, une discussion. Effectivement, selon le regard qu'on porte sur le phénomène, plus le regard est avant tout psychiatrique, plus il cherche à qualifier un trouble et l'émergence d'un trouble nouveau. Donc certains défendent l'idée que c'est un nouveau trouble qu'il faudrait même inscrire dans les manuels de diagnostic actuels. C'est une question très controversée. En insistant sur le hikikomori primaire, c'est vrai qu'on cherche un petit peu à dépathologiser, pas forcément inscrire ça comme un nouveau trouble, et à souligner le fait que, en tout cas, on peut pas expliquer le retrait par autre chose de qui est déjà là, quoi, et qu'il faut que ça amène à réfléchir toute cette articulation que vous rappeliez, Serge Tisseron. Famille, société, individu,
voilà.
Etc.
Voilà. Et en tout cas, il faut bien que nos éditeurs comprennent que ça ne sont pas forcément des jeunes qui préfèrent jouer aux jeux vidéo et rester toute la journée à jouer aux jeux vidéo à la maison, comme ça peut être dit parfois. Certains jouent, mais pas forcément. Puis il ne faut pas non plus confondre avec la clinophilie, qui est le fait de rester couché toute la journée chez soi. Ils peuvent avoir des activités, simplement, ils sont en retrait social.
Oui. Ce qu'on trouve passionnant en étudiant cette question, en essayant de rencontrer ces jeunes, leurs familles, etc., c'est vrai que d'abord, il y a un éventail très large de types de retrait. Le point commun, c'est cette attitude qui, encore une fois, est déroutante, qui est « je ne participe plus au monde ». Je suis dans ma chambre. Mais à partir de là, il y a une palette assez large de ceux qui jouent de façon très compulsive à des jeux, ceux qui, à l'inverse, jouent un peu, surfent sur Internet, mais lisent aussi, font d'autres choses, etc. Ceux qui font pas grand-chose. Enfin, il y a une palette assez large de conduite.
Alors, il y a un autre phénomène dont on a beaucoup parlé, Maya Fanstein, il y a quelques années, un phénomène apparu au Japon aussi, qui est le phénomène otaku. Alors, je crois que c'est assez différent. Est-ce que vous pouvez nous préciser les points communs, les différences, et puis aussi peut-être la situation économique différente dans laquelle ces deux phénomènes ont surgi?
Oui, c'est intéressant de rappeler que on est dans des années, les années 80-90, où émergent des nouveaux termes comme ça. Donc ça veut bien dire aussi qu'on est dans des périodes où on cherche à qualifier quelque chose qu'on comprend mal. Et cette chose qu'on comprend mal, elle concerne les jeunes. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce terme d'otaku qui a connu un grand succès, qui vient désigner plutôt maintenant, en fait, une sorte de subculture, de culture de jeunes qui se retrouvent autour des jeux vidéo, des technologies. En général, un otaku, c'est quelqu'un qui est passionné soit de jeux, soit d'un personnage, soit d'un manga, une série, etc., qui s'identifie à ce personnage et qui collectionne tout ce qui concerne ce personnage.
Qui fabrique des petites figurines, voilà. Qui fabrique des mangas.
Exactement, typiquement, donc c'est quelqu'un qui vit dans le monde de ce personnage ou de cette série, etc. Donc c'est souvent des collectionneurs. C'est un terme qui est apparu dans les années 80 et qui est pour certains revendiqué par les jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se qualifient de otaku, ils se reconnaissent entre eux et ils partagent une sorte de communauté de passionnés. Un petit peu ensemble.
Donc ils socialisent ensemble.
Ils socialisent ensemble et c'est un marqueur fort de leur identité. Le point commun avec les hikikomori, c'est que ça produit de l'isolement. Et dans un certain nombre de cas, on a pu s'inquiéter de cet isolement extrême de certains otaku qui ne semblaient plus concernés que par leur passion et qui délaissaient les autres obligations sociales, etc. et qui semblaient négliger les valeurs de la société dominante au profit de cette passion.
Mais quand même intégrés dans la communauté otaku.
Mais intégrés dans la communauté otaku, tout à fait. C'est ce qui fait la différence, en fait, avec les hikikomori qui sembleraient être une forme plus radicale. Est légèrement différente puisque le hikikomori il est plutôt décrit comme quelqu'un qui est désinvesti, qui n'a pas de désir particulier, donc qui n'a pas de passion non plus, qui est plus indifférent et qui est plus seul, qui fait pas communauté avec les autres hikikomori.
Est-ce qu'on peut dire alors, Maya Fanstein, qu'il y a une culture otaku alors qu'il n'y a pas de culture hikikomori?
Il me semble qu'on peut, tout à fait dire ça, c'est juste son, oui.
Bien, et alors, ces jeunes, dont on parle par rapport au Japon, les Japonais ont appelé les hikikomori, mais on en retrouve des modèles, des équivalents, hein, dans beaucoup de pays. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle en France, par exemple, les tanguis, hein, est-ce que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les twixters, en Italie, les bamboccioni, i bamboccioni, en Allemagne, les nextalkers, est-ce que tous ces mots désignent un peu finalement un phénomène proche?
Oui, alors proche et lointain, mais en tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est de s'interroger toujours sur comment ça se fait qu'à un moment donné, un problème est un problème. C'est-à-dire, pourquoi cette conduite, elle devient une inquiétude, évidemment des parents au premier chef, ça on peut le comprendre, mais plus largement de la puissance publique, des professionnels, etc., au point qu'on arrive à l'identifier, à le nommer et à ce que ça devienne un problème.
Oui, je crois même que la Commission européenne s'en est préoccupée et les a appelés les NEET.
Voilà.
Hein, not in employment, education, nor training.
Oui.
Qui ne font rien pour aller vite.
En fait, ce qui est frappant, c'est que dans ces années-là, émerge toute une série de termes. Alors, vous l'avez rappelé, Serge Tisseron, nous, on a le tanguy français. Bon, alors, le tanguy français, c'est la version plus light, hein, c'est plus sympathique, personnage de fiction qu'on aime bien. Mais dans la même période, les Japonais, il y avait un best-seller qui autour de là aussi ces jeunes, cette génération de jeunes qui ne part pas de chez ses parents, qui semble ne pas se mettre au travail, etc. Sauf que le terme était beaucoup plus rude que Tanguy. Le best-seller s'appelait les parasites singles. Donc c'est bien plus violent. Hein, on voit la connotation morale lourde envers ça. Et tous les termes que vous avez rappelés, Serge Tisseron, de Twixter, de Bamboccioni, etc. Ils ont en commun de désigner ça, une jeunesse qu'on a du mal à comprendre. Qui a l'air bizarre parce que elle a l'air d'abord de rester très longtemps chez ses parents, de pas trouver ça anormal, d'y trouver tout un certain confort. Donc c'est des termes un peu ambivalents qui disent à la fois la différence d'une génération et qui disent aussi un petit jugement moral sur le fait qu'ils ont pas l'air d'être très voilà de se mettre au travail ou d'être voilà d'être un peu trop paresseux ou d'être un peu trop de se laisser un peu trop vivre facilement.
Alors
c'est pas tout à fait la même chose que les hikikomori parce que les hikikomori il y a une dimension plus radicale hein, mais on voit bien qu'on est dans un contexte qui cherche à qualifier des conduites qui ont des points communs. Et vous avez dit, Serge Tisseron, les NEET, ça aussi, ça me semble très intéressant. Hein. On pourrait dire en français les ni-ni-ni, ceux qui sont nulle part, qui sont ni en train de bosser, ni en train de faire des études, etc. Et ça, c'est un objet de préoccupation, sauf qu'il y a une connotation bien souvent économique. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas en train de travailler ou d'être en stage, c'est souvent parce que le marché de l'emploi ne leur offre pas cette possibilité.
C'est toute l'ambiguïté du mot. Hein. On ne sait pas très bien s'ils sont chez eux parce qu'ils ne trouvent pas de travail ou s'ils ne cherchent pas de travail parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils préfèrent rester chez eux.
Exactement. Donc on en revient toujours à cette question du désir. Comment savoir si c'est par, ils sont victimes d'un système qui les contraint ou si c'est une forme de choix. Est-ce qu'on peut parler de choix ou de résignation, etc.
Alors pour ceux pour lesquels ce serait un choix, vous proposez une formule que vous avez trouvée, je crois, dans la littérature, vous allez nous en parler, cette formule par laquelle le jeune, finalement, se mettrait toujours dans la situation de dire, quand on lui propose quelque chose, « je préférerais ne pas ».
Oui, alors ça me donne l'occasion de rappeler que je ne suis pas seule à travailler sur c'est un travail collectif, hein, je tiens à le dire. On est toute une équipe de chercheurs. Alors moi, je suis sociologue, mais il y a une psychologue, une anthropologue, nous sommes plusieurs. Je cite en particulier mes collègues Christina Figueredo et Natacha Vellut.
Oui.
Et ce qui nous a frappé effectivement, c'est la lecture de Barthelby, donc ce roman de Melville, dans lequel ce personnage est un personnage qui répond systématiquement à son interlocuteur, quel qu'il soit, je préférerais ne pas. Son patron lui demande des choses, lui demande de travailler, et il dit ni oui ni non, il dit je préférerais ne pas. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que c'est en résonance avec la conduite du hikikomori, mais aussi parce que c'est en résonance avec l'effet que ça produit sur l'autre. Ce qui est très difficile à vivre dans les parcours de hikikomori, c'est cette absence de déclaration, cette absence d'explication, cette absence de motivation.
Et qui, absence d'opposition même.
Exactement, cette absence d'opposition. Et c'est ça qui est très déroutant pour les familles ou qui est très déroutant pour les professionnels qui les approchent. C'est rien de spécial. On dit ni oui ni non, mais peut-être une forme de « je préférerais ne pas ». Voilà, une forme de suspension même de discours. Sur ce qui se passe. Alors nous, quand on a rencontré des familles ou des jeunes, on a pu parler avec eux souvent, avec ces jeunes-là, un petit peu plus tard, rétrospectivement, une fois qu'ils sont sortis d'une première phase dure de retrait. Mais pendant la phase dure de retrait, voilà, ça nous fait penser à cette suspension de toute parole.
Alors maintenant, si vous voulez bien, Maya Fanstein, on va essayer un petit peu de comprendre les causes. Je crois que nos auditeurs commencent à bien percevoir la figure du hikikomori. Mais alors, je crois que les causes, elles sont multiples, hein, et on va peut-être en envisager successivement plusieurs. Les attentes familiales, d'abord, hein, au Japon, qui sont considérables, avec le risque de désespérer un certain nombre d'adolescents.
Oui, c'est vrai. C'est une dimension qui a souvent été mise en avant, hein, la question de la famille. Alors, c'est vrai au Japon, c'est vrai aussi en France, puisqu'encore une fois, dans notre équipe de recherche, nous travaillons sur ces phénomènes de retrait aussi ici. Et nous travaillons aussi avec des collègues italiens qui constatent des mêmes choses en Italie, par exemple, etc. C'est vrai, la pression familiale, ça peut être une dimension. Mais je voudrais aussi souligner le fait que le phénomène hikikomori, c'est un phénomène familial. C'est-à-dire que pour fabriquer un hikikomori, il faut aussi une famille qui accepte, au fond, ou qui, en tout cas, considère qu'il est préférable de laisser cette personne, ce jeune homme, souvent, dans sa chambre, plutôt que de le brutaliser, de l'obliger à sortir, etc. Et que donc, il y a une dynamique qui est immédiatement, et le retrait lui-même se transforme en un retrait familial, puisqu'on constate aussi que dans un certain nombre de cas, le retrait prolongé, il finit par avoir des répercussions sur tout le cercle familial. La famille aussi se met un peu en retrait. Il arrive qu'on reçoive de moins en moins de gens à la maison parce qu'on en a ras-le-bol de devoir expliquer bien pourquoi le fils de 20 ans, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, etc. et qu'est-ce qu'il va faire et tout ça. Donc il y a quelque chose qui concerne vraiment l'ensemble domestique.
Et il y a un élément que j'ai entendu mettre en avant, le fait que certains parents, songeant à leurs vieux jours, à l'allongement de la durée de la vie, pensent que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose d'avoir un enfant chez eux, qui s'occuperait de leurs vieux jours. Alors c'est une vieille histoire, hein, traditionnellement dans beaucoup de familles, la cadette, hein, la fille cadette devait rester pour s'occuper des parents et souvent de la mère, puisque le père décédait avant. Alors est-ce que les hikikomori, ça serait une nouvelle version de cette malédiction familiale qui fait que certains enfants devraient rester à la maison pour s'occuper de leurs vieux parents?
En tout cas, c'est pas dit comme ça, et c'est pas choisi en ces termes-là, ni par les parents, ni par les enfants. Les parents s'en inquiètent en général et sont évidemment se plaignent de cette situation, mais en même temps, sans doute, pour comprendre pourquoi, dans certains cas, il nous est arrivé de rencontrer, par exemple, des familles qui avaient sollicité une aide au bout de 10 ans seulement. Bon, ils avaient le jeune homme chez eux, ce jeune homme avait presque 30 ans, et ils disaient, ben voilà, ça fait 10 ans en fait qu'il est à la maison. Mais on peut comprendre ça parce que, d'abord, cette personne, ce jeune homme ne présentait pas de symptômes très alarmants, ni de dépression majeure, ni d'altération physique forte, ni etc. Certes, il sortait plus trop, mais il continuait à participer aux repas familiaux, il discutait autour du journal télévisé, etc. Et surtout, j'ai le sentiment que les parents pressentaient fortement une grande vulnérabilité de cet enfant et que eux-mêmes avaient intégré l'idée que l'extérieur est très dangereux. Et que peut-être, tant qu'il est là, on peut le protéger un peu aussi de cet extérieur dangereux, de cet avenir très incertain, je pense qu'il y a des représentations, pas toujours évidemment explicitées, mais sans doute des représentations partagées aussi du dedans et du dehors, et sans doute c'est pas étranger non plus à une sociologie actuelle de la famille qui est une famille très affective, très protectrice. On a besoin des liens les uns les autres et de ce soutien fort. Peut-être que dans ce que vous décriviez, Serge Tisseron, à d'autres époques, c'était peut-être normé différemment, la cadette qui restait par devoir, d'une certaine manière. Mais aussi, on peut envisager d'autres époques où il était hors de question qu'on reste dans sa chambre pendant si longtemps sans rien faire.
Puis évidemment, on comprend que les propositions des parents d'emmener le jeune en consultation se heurtent à la phrase qu'on évoquait tout à l'heure, « je préférerais ne pas ». Donc ça met souvent les parents dans une situation difficile, ils ne savent pas très bien s'ils doivent forcer la main ou s'ils doivent respecter ce que dit le jeune en espérant que peut-être son avis va évoluer.
Oui, je ne sais pas, peut-être des parents nous écoutent et se reconnaîtront, mais dans un certain nombre de situations, surtout je pense à des jeunes adolescents, il n'est pas rare que l'adolescent lui-même dise « mais je vois pas pourquoi tu t'inquiètes, je vois pas où est le problème, moi ça va bien, je suis bien, bon, arrête de t'inquiéter maman, t'en fais trop ». Et dans d'autres situations aussi, les parents peuvent envisager dans un premier temps avec une forme d'aversion l'idée d'une prise en charge qui pour eux signifie la psychiatrie, l'hospitalisation, enfin voilà, et des représentations qui sont un peu trop violentes pour certaines familles ou pour certains parents dans un premier temps.
Oui, c'est avec le risque d'être un peu pointé du doigt, dans le pire des cas, par les voisins, la honte d'avoir un malade mental chez soi, des réactions qui existent.
Alors, on évoque souvent aussi, au sujet des hikikomori, la question de la pression scolaire, elle est indirectement liée à ce qu'on disait sur la pression familiale. C'est là aussi peut-être un terrain sur lequel le Japon et France peuvent se rejoindre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On a souvent l'image du Japon très dur, une société de pression où les jeunes sont soumis à un rythme scolaire effréné, vont à l'école très tard, etc., etc. En France, on n'a pas ça, mais il ne faut pas croire qu'on est non plus d'une grande souplesse sur le plan scolaire. On a aussi un système assez dur, avec une pression scolaire forte. Disons que le point commun, à mon sens, c'est une pression dans le sens, pas forcément au moment de l'école, tous les matins, etc., mais une pression dans le sens où l'école joue un rôle déterminant dans la destinée des individus. C'est-à-dire, et ça, les jeunes français aussi l'intègrent beaucoup, il y a le sentiment que les choix qu'on va faire, les écoles dans lesquelles on va rentrer vont nous déterminer toute notre vie. Et donc, évidemment, des enjeux extrêmement qui peuvent être très paralysants à certains moments clés du passage au lycée, du passage au collège, etc., etc. Et sur ce plan-là, il me semble qu'on peut trouver des comparaisons intéressantes.
Souvent, plus les parents poussent et plus l'enfant essaye de se conformer aux attentes des parents, jusqu'au moment où plus les parents poussent et plus ils résistent. Et là, ils tombent dans le phénomène hikikomori, si je comprends bien.
Oui, en plus, c'est souvent des profils... Enfin, il arrive souvent qu'en tout cas au Japon, c'est ce qui a été montré, on a retrouvé un peu cette idée en France. C'est souvent, contrairement à l'image des décrocheurs par exemple, ce sont souvent des jeunes qui sont plutôt bons à l'école, voire même brillants, qui n'ont pas de difficultés avec les apprentissages, qui sont à l'aise un certain temps dans la scolarité, puis qu'à un moment, ne peuvent plus y aller. That's not me. I go.
Que cette musique a un titre qui coïncide parfaitement avec le sujet dont on parle.
Oui, c'est vrai. C'est un morceau donc de Radiohead qui s'appelle How to Disappear Completely, comment disparaître complètement. Évidemment, j'ai trouvé que c'était un écho intéressant à notre sujet aujourd'hui. Aussi parce que, à la fois parce que peut-être ces jeunes cherchent à disparaître ou fantasment de disparaître d'une certaine manière, mais aussi parce que vu du sociologue, ce comportement, cette conduite, on peut un peu la qualifier d'invisibles sociaux. C'est ceux qui deviennent invisibles pour la société et vis-à-vis des demandes sociales à leur égard. Donc ça, c'est la raison de mon choix.
France Culture, matière à penser des machines et des hommes, est toujours avec vous, Maya Fanstein. Alors, cette crise d'adolescence très particulière des hikikomori, est-ce que ça serait pas peut-être aussi, d'un certain point de vue, une façon extrême, une caricature de l'adolescence normale?
Oui, c'est vrai que la question des hikikomori, elle est directement liée à la question de l'adolescence. D'abord parce qu'on a vu que ça concernait des jeunes gens. Alors, il n'est pas rare que... il y a des périodes clés comme ça d'entrée dans le retrait, et une de ces périodes clés c'est des seuils, 13-14 ans il nous semble que c'en est un, parfois c'est plus tard, c'est plutôt autour de la vingtaine, mais il y a des moments importants autour de l'adolescence également.
Et ces seuils correspondent à des seuils scolaires au Japon?
Ça peut correspondre à des seuils scolaires, mais l'anthropologue, ma collègue Christina Figueredo, ferait plutôt le lien avec le fait que ça correspond à des étapes clés qui correspondaient dans certaines sociétés traditionnelles à l'entrée dans l'âge d'homme, par
D'accord.
exemple. Hein. Et donc, c'est ces moments aussi où il y a la question scolaire, mais pas seulement, il y a la question de, finalement, je commence à m'imaginer, à me projeter en adulte futur ou en jeune homme sexué qui va devoir faire des choix, etc.
Voilà, donc des exigences sociales plus importantes et un risque de refus d'obstacle donc plus important.
Oui,
encore.
Des exigences sociales et sans doute la question peut-être de la sexualité peut rentrer aussi en considération.
On n'a pas dit d'ailleurs proportion homme-femme parmi les hikikomori.
Oui, alors bon, très classiquement, toute la littérature japonaise indique une proportion plus grande de garçons. On a l'habitude de parler de 80% de garçons. Alors c'est un peu en train de changer, ça a été très longtemps ça. Mais les derniers rapports dont je parlais tout à l'heure, traduits par Nicolas Tajan, ont l'air de nuancer ça et de dire qu'il y a quand même finalement une proportion de filles non négligeable. Peut-être aussi qu'on n'a pas tellement vu les filles. C'est plus invisible chez les filles parce qu'au fond, bon, je vais dire quelque chose d'un petit peu étonnant, mais finalement, une fille qui reste à la maison, c'est moins préoccupant pour plein de raisons. Donc peut-être qu'on n'a pas su identifier des conduites chez les filles de la même manière que chez les garçons. Mais en tout cas, oui, la question de l'adolescence et la question plus généralement de la jeunesse me semble centrale ici, c'est que les hikikomori, finalement, en tant que phénomène, questionnent qu'est-ce que c'est que devenir adulte, qu'est-ce que c'est que sortir de la jeunesse aujourd'hui, et les hikikomori, qu'est-ce que c'est si ce n'est des gens qui ont l'air de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir sortir de cet état-là, qui sont en suspension entre deux mondes. Et ça fait d'ailleurs le titre de l'ouvrage dans les années 90 au Japon qui a propulsé le phénomène de ce psychiatre Saito, le titre de son ouvrage c'était Une adolescence sans fin. Donc c'était cette idée-là aussi.
Et après 30 ans, puisque Maya Fanstein, vous nous disiez tout à l'heure que la limite d'âge en quelque sorte est fixée à 30 ans, au-delà de 30 ans, comment on considère ceux qui n'ont pas changé?
Maintenant, étant donné que la première génération d'hikikomori japonais est désormais apparue au début des années 90, il y a des hikikomori célèbres de 40 ans et plus maintenant dans la société
D'accord,
japonaise.
D'accord, donc peut-être que la définition va être revue avec un allongement de la longévité.
La définition, elle concerne l'âge d'entrée, mais ensuite, un hikikomori qui reste hikikomori, il peut le rester très longtemps. Et c'est vrai que ça pose des questions sérieuses sur... les questions de la prise en charge, du traitement, les questions même de la reconnaissance ou non d'une forme de handicap. Est-ce qu'il y a des compensations qui doivent être apportées, etc. Vous le rappeliez tout à l'heure, la question des familles. Que vont-ils devenir quand leurs parents ne seront plus là? Ça, c'est évidemment des questions importantes, surtout dans un pays comme le Japon, où la démographie, vous savez, là, c'est une société très vieillissante. Les jeunes en sont peu nombreux. Et évidemment, c'est dramatique pour la société japonaise. C'est sans doute pour ça que c'est devenu un phénomène si important de penser que les jeunes, qui sont déjà pas très nombreux, disparaissent ou ne jouent pas leur rôle social. Donc ça, c'est sûr.
Et donc, on a un retrait psychique, on a un retrait social. Est-ce qu'on y voit un peu clair sur la manière dont ces deux types de retraits s'articulent, sur la manière dont ils s'accentuent, dont ils se potentialisent l'un l'autre? Je crois que j'aurais tendance à penser, moi en tant que psychiatre, que c'est d'abord le retrait psychique qui prévaut avant le retrait social, même si après il y a un sac vicieux entre les deux, mais peut-être qu'en tant que sociologue, vous allez me dire que c'est le contraire.
Non, certainement pas, Serge Tisseron, mais c'est des discussions que nous avons à différents niveaux, effectivement. La sociologie, l'anthropologie, la clinique. Donc le retrait psychique, certainement. avec cette dimension qu'on évoquait tout à l'heure, qui est quand même caractéristique de cette conduite, qui est une dimension très silencieuse, très passive, sans mots, un peu blanche, voilà. Donc ce retrait psychique, il est pas nommé, il est pas identifié par la personne qui elle-même le vit comme telle. Donc c'est cette dimension très énigmatique, et suivie, oui, d'un retrait social. Ce qui est frappant aussi, c'est que surtout lorsqu'il s'agit des adolescents, l'entrée dans le retrait, elle se fait par le corps, beaucoup. Donc évidemment, ça n'exclut pas du tout cette dimension psychique, mais la manifestation symptomatique, c'est je peux pas aller à l'école, je peux pas aller au collège, je peux pas aller au lycée parce que j'ai des maux de ventre abominables, je m'évanouis, je peux pas sortir de chez moi, etc. Donc c'est un empêchement qui est parfois physique dans un premier temps, dont on se dit bon bah ça va passer la semaine prochaine, j'y retourne, et puis en fait ça ne passe pas.
Et alors, on évoquait tout à l'heure le fait que lorsque le mot est apparu en France, beaucoup de gens ont défini lui Hikikomori comme quelqu'un qui passerait ses journées devant les jeux vidéo. Bon, on a bien dit que ce n'était pas du tout le cas. Mais justement, quelle place jouent les outils numériques dans leur vie? Parce que parfois, ça peut être un refuge, mais je crois aussi qu'ils sont parfois utilisés comme levier thérapeutique.
Tout à fait. Alors c'est très important parce que la figure du Hikikomori, effectivement, sur l'image d'Épinal un petit peu, c'est d'ailleurs souvent quand on parle de ce phénomène, les gens connaissent pas ce terme Hikikomori qui est un peu inconnu, mais la réaction spontanée c'est ah oui, je connais quelqu'un, j'ai une cousine, j'ai un voisin, j'ai etc. Et souvent on identifie ça à c'est les jeux vidéo, il est addict aux jeux, c'est ça qui fait qu'il est retiré chez lui. Aussi bien sur les terrains japonais que français qu'italien, nous sommes la plupart des chercheurs qui travaillons sur ces questions plutôt d'accord pour penser que c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'en tout cas c'est pas le numérique, le jeu vidéo qui crée le retrait. En revanche, bien sûr, s'imaginer soi-même passer des mois voire des années chez soi dans une chambre aujourd'hui en 2017, qu'on soit ou non Hikikomori, ça implique qu'on a un outil qui s'appelle un ordinateur ou des consoles, et que c'est ça qu'on a avec nous, et c'est ces outils-là qu'on utilise. Comme l'a montré ma collègue Natacha Vellut, par exemple, ce qu'on constate, c'est que d'abord les usages sont extrêmement variés. Donc ça existe, hein, des usages plutôt compulsifs, impossibilité de se détacher du jeu pendant plusieurs mois, etc., etc. Ça existe. Mais d'autres peuvent être tout à fait différents. Il y en a qui utilisent ce temps de retrait pour s'informer, pour se former aussi. Il y en a qui apprennent les langues, qui lisent, etc.
Oui, donc utilisation d'outils numériques dans un projet d'auto-guérison, en quelque sorte. Comment se socialiser autrement dans d'autres milieux.
Exactement. Ou alors comment enfin être performant ou puissant. Ce qui semble aussi très intéressant. C'est que il n'est pas rare qu'on voit des situations où ces jeunes qui se sentent moins que rien, insuffisants, impuissants à l'extérieur, à l'intérieur de leur chambre, sont très puissants parce qu'ils sont des chefs de guerre incroyables dans leur jeu, ils lèvent des armées, ils réussissent des exploits extraordinaires. Donc il y a aussi les collègues qui travaillent sur ces outils-là de façon thérapeutique. Effectivement, insiste beaucoup sur le fait qu'il faudrait surtout pas s'imaginer que la première chose à faire, c'est débrancher l'ordinateur. Au contraire.
C'est bien de le dire. Voilà. Je suis bien d'accord, mais il faut toujours le répéter parce que c'est hélas non seulement ce que pensent certains parents, mais même ce qu'ont tendance à prôner certains thérapeutes.
Tout à fait. Donc ça, vous êtes bien placé pour le dire souvent, Serge Tisseron, mais c'est important, effectivement, de souligner qu'il faut pas se précipiter sur cette option-là. Et surtout, alors c'est encore rare. Je dirais, il n'y a pas grand monde qui travaille comme ça. D'abord, c'est rare qu'il y ait des gens qui travaillent explicitement sur les Hikikomori, puisque c'est un phénomène qui est un peu invisible, comme on l'a dit. Et c'est rare, mais ça existe. Il y a des services au Japon, en France, en Italie, où l'idée, c'est de travailler justement avec le support de ces usages numériques. C'est-à-dire, tu joues au jeu toute la journée, c'est très intéressant. Comment tu as choisi ton avatar? Pourquoi cet avatar? Et on travaille à partir de ça et avec cette alliance-là plutôt que contre.
Alors, Maya Fainstein, on commence à mieux comprendre, hein, grâce à vous, quel peut être le trouble et la souffrance du Hikikomori, quel peut être le désarroi de sa famille. Mais l'agressivité n'est pas absente de tout ça non plus. Hein. Quelqu'un qui dit toujours je préférerais ne pas, est-ce que c'est pas aussi une façon d'agresser indirectement son entourage, disons de réduire son entourage à l'échec en permanence?
Oui, c'est tout à fait intéressant de réfléchir à cette question de l'agressivité, de la violence, qui n'est pas manifeste puisqu'elle est rentrée, et surtout elle n'est pas manifeste parce que ce qu'on pourrait dire, c'est que au Japon, dans une société comme la société japonaise, les hikikomori, au fond, ça a un avantage, entre guillemets, c'est que, je vais le dire de façon un petit peu caricaturale, selon les termes d'un collègue, mais au fond, ils embêtent leurs parents, mais ils embêtent personne d'autre, parce qu'ils restent chez eux et que finalement, ça gêne pas tellement. Donc c'est très intéressant de se dire, c'est pas du tout une jeunesse, par exemple, qui irait tout casser ou qui irait revendiquer ou contester ou proposer un nouveau modèle de société, etc.
Jeunesse que le Japon a connue dans les années 1980, hein, 1970, 1990, avec
Exactement.
Des mouvements étudiants incroyablement violents. Je les voyais, ou mes copains, on les voyait, ces mouvements étudiants, dans des films d'actualité, on n'en croyait pas nos yeux.
Tout à fait. Et même, comparé au otaku dont on parlait tout à l'heure,
oui.
Où il peut y avoir davantage, parfois, de discours sur l'inadéquation des valeurs de la société japonaise, etc.
Oui, ça donne d'ailleurs un peu l'impression d'être un pays de l'extrême, parce que ces mouvements étudiants hyper violents, avec des casques de couleurs différentes qui étaient lancés successivement contre les forces de police, les otaku, hein, qui ont inventé une nouvelle culture en se retirant des professions auxquelles ils étaient destinés, puis maintenant les hikikomori.
Tout à fait. Alors c'est vrai que moi, ça me suggère une réflexion sur le paradoxe un petit peu de cette position des hikikomori et de cette position de retrait, c'est-à-dire qu'on pourrait se questionner sur, au fond, et c'est le cas aussi pour les Français qu'on a rencontrés, dans quelle mesure ils incarnent un refus, ou à l'inverse, dans quelle mesure ils incarnent finalement une telle reprise de l'idéal social. Ils adhèrent tellement, au fond, à cet idéal qu'ils sont coincés, qu'ils ne peuvent plus avancer, et qu'il y a cette paralysie, cette suspension du temps, etc. Mais les hikikomori japonais, certaines études ont été menées auprès d'eux, montrent que certains d'entre eux sont pas du tout, c'est plutôt des individus très conservateurs, très en adéquation avec les valeurs. Ils considèrent qu'il faut aller travailler, qu'il faut être, etc. Donc c'est plutôt cette idée de la reprise d'un idéal très fort. Et je trouve intéressant de se dire, si on réfléchit un petit peu aux travaux de sociologie des sociétés modernes, ou qu'on appelle parfois postmodernes, etc., mais comment sont fabriquées nos sociétés aujourd'hui, sur l'importance, je pense à un sociologue comme Alain Ehrenberg qui insiste sur l'importance des valeurs de l'autonomie aujourd'hui, eh bien l'autonomie serait cette forme de, cette nouvelle règle sociale, c'est-à-dire que nous avons tous à être autonomes en permanence depuis qu'on est tout petit, depuis les premiers temps. Et être autonome, ça veut dire à la fois s'auto-contrôler, mais s'auto-activer, s'auto-motiver. On doit en permanence être en mode projet, comme on dit, hein, faire montre de cette motivation. Le hikikomori, il semble incarner de façon exemplaire cette facette de faille de l'autonomie, c'est celui qui ne s'auto-active plus.
Oui.
Mais en même temps, et c'est ce que je trouve intéressant, il peut aussi incarner le contraire, c'est-à-dire que l'hikikomori, c'est quelqu'un qui nous déroute beaucoup parce qu'il est chez lui, il semble déclamer finalement indirectement qu'il a besoin de personne, qu'il est en parfaite autarcie, qu'il n'a plus besoin des liens, qu'il n'a plus besoin des affects avec les autres, etc. Et donc il est un petit peu cette figure double et paradoxale, hyper dépendant de ses parents pour survivre, dépendant du foyer, et en même temps, finalement, une forme de proclamation d'une autarcie assez singulière, ou d'une hyper-autonomie un petit peu froide.
Il y a toute une école de psychologie, psychanalyse, qui a travaillé aussi sur cette dimension d'idéaux inaccessibles qui suscite finalement la démobilisation. L'idéal peut être placé si haut qu'on n'a plus qu'à ne rien faire parce que de toute façon on ne l'atteindra jamais. Et d'ailleurs de ce point de vue-là, vous citiez Alain Ehrenberg et sa fameuse formule « la fatigue d'être soi », mais de ce point de vue-là, c'est plus le désespoir de ne pas arriver à être soi.
Tout à fait, exactement. Comme dit ma collègue Marie-Jeanne Gage, dit finalement les jeunes en retrait, c'est tout ou rien.
Oui.
Il n'y a pas d'autre solution possible, soit tout, soit rien. Et c'est ce rapport-là à l'idéal, effectivement.
Alors, Maya Fansten, ne désespérons pas nos auditeurs. C'est grave, hein, voilà. Mais des thérapeutes, des sociologues essayent justement d'aider ces jeunes et parfois ils parviennent. Alors, comment se passe le traitement, justement?
Alors bon, là où il faut se tourner vers le Japon à nouveau, parce que, encore une fois, c'est là que le phénomène a été identifié et c'est là que se sont développés, de façon d'ailleurs assez massive, tout un marché de la prise en charge des hikikomori. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, ce marché, il est très vaste et que, du coup, il est très varié là aussi. Et comme vous l'avez rappelé, Serge Tisseron, tout à l'heure, il n'y a pas l'équivalence d'une psychiatrie, d'une pédopsychiatrie à la française. Donc, c'est un marché qui... C'est une réponse qui est beaucoup le fait du secteur privé, du secteur associatif. Et on propose d'abord, évidemment, d'écouter ces jeunes, de les faire venir quelque part, de leur proposer des lieux où ils vont pouvoir sortir un petit peu de chez eux. Ce que je trouve très intéressant avec la question des hikikomori, c'est qu'en réalité, ça nous oblige à repenser aussi nos pratiques, les automatismes de ces pratiques et d'imaginer d'autres solutions. Par exemple, traditionnellement, y compris dans la psychiatrie, psychanalyse française, etc., on attend du patient qu'il sorte et qu'il vienne. Et c'est d'ailleurs une condition importante, c'est qu'il se déplace et qu'il exprime sa demande.
C'est une erreur qui a été beaucoup faite.
Voilà. Alors évidemment,
qu'on a heureusement critiqué.
Alors évidemment, avec les hikikomori, c'est pas possible. Oui. Parce qu'ils veulent pas sortir de chez eux. Combien de fois j'ai eu écho de ces situations où une famille cherchait de l'aide pour son jeune et on leur disait allez au CMP. Il faut qu'il aille au CMP, mais le CMP ne bougeait pas. Alors il y a des CMP, il y a des structures où on a mis en place du coup des visites à domicile. D'autres façons de faire, venir frapper à la porte plusieurs fois, revenir, etc. Certains proposent des contacts par téléphone, contacts par mail, contacts par d'autres. Donc ça oblige à imaginer des choses qu'on n'a pas l'habitude nécessairement de faire, telles
quelles. Et qui utilisent aussi des technologies numériques.
Et comme on le disait tout à l'heure, voilà, des ateliers centrés sur le numérique. Oui. Juste petite anecdote, il y a un endroit au Japon qui s'appelle New Start, qui est un lieu d'accueil des hikikomori, assez connu, dans lequel, avant que le jeune intègre ce lieu, pendant longtemps, il est d'abord interpellé par ce que cette structure a appelé des rental sisters, donc des sœurs de location. Ce sont des jeunes femmes qui vont frapper à la porte de la chambre du jeune homme, mais parfois ça peut prendre des mois, une année, deux années avant que le contact puisse réellement s'établir. Et c'est par l'intermédiaire de ce lien, qui est censé mimer le lien de la famille, justement, comme la sœur, qu'on reprend contact avec la société, qu'on peut revenir dans ce centre, etc. Donc, vous voyez, il y a des...
Oui. En tout cas, la leçon, c'est qu'il faut renoncer à mettre la pression sur les hikikomori, ça serait aggraver le mal plutôt que le guérir. Et éviter aussi les activités compétitives, justement, leur attitude consiste à sortir de tout ce qui est compétitif. Alors pour terminer, Maya Fansen, est-ce qu'il y a des choses que vous craignez aujourd'hui dans le développement des technologies numériques? On a dit qu'elles pouvaient être des leviers thérapeutiques, mais est-ce qu'il y a aussi des choses que vous craignez par rapport à la situation des hikikomori? Je pense notamment à ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle, qui pourrait susciter des retraits encore plus importants.
Je ne sais pas s'il faut craindre. Encore une fois, c'est vrai qu'on est devant un terrain inconnu de nouvelles formes de pratiques, de nouveaux usages, etc. Comme on l'a vu tout à l'heure, moi, je suis très frappée par le fait que dans un certain nombre de cas, on ne peut pas savoir à l'avance si pour cette personne-là, c'est un facteur d'aggravation, finalement une solution qui va renforcer des tendances plutôt destructrices, plutôt néfastes, ou si au contraire, c'est un moyen d'échapper à des choses plus graves. Et par exemple, des collègues italiens travaillent sur certains et mettent l'hypothèse que pour certains jeunes, se retirer, c'est aussi une façon de se protéger contre des tentatives de suicide, par exemple, de se préserver de cela.
Une forme d'auto-guérison. Finalement, c'est au coup par coup.
Voilà.
Merci beaucoup, Maya Fansen. Je crois qu'après vous avoir entendu, personne ne va pouvoir dire « j'aurais préféré ne pas écouter Maya Fansen
». Merci, Serge Tisseron.
Et n'oubliez pas, il n'y a pas d'homme-machine, il n'y a pas de machine-homme, il n'y a que des machines et des hommes. Matière à penser, des machines et des hommes, Maya Fansen, Pascal Bénard, Céline Leclerc, Anne-Pascale Desvignes et Serge Tisseron.